Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Et juste une chose avant de commencer le message, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. J'ai ici à la main le livre de Mormon. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, nous sommes en train de voir les erreurs des Mormons en première partie le dimanche matin. Bien sûr, nous n'adhérons pas du tout à ce livre. Donc, si je l'ai ici, c'était tout simplement pour lire quelques extraits, pour montrer leurs erreurs. Donc, voilà, si vous voyez ça ici sur le pupitre, comme j'ai dit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'était tout simplement pour montrer leurs erreurs. Donc voilà. Donc nous revenons à la première épître aux Corinthiens chapitre 10. Première épître aux Corinthiens chapitre 10, ce sont les 13 premiers versets qui vont nous intéresser ce matin. Permettez-moi de les lire, après quoi nous prierons pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Première épître aux Corinthiens chapitre 10, les 13 premiers versets. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces instants que nous passons dans ta parole, que tu diriges notre pensée, que tu touches notre cœur avec cette parole puissante, que nous ne restions pas indifférents, et Seigneur, que tu puisses produire des changements en nous pour nous rendre plus conformes à toi, à ton Fils Jésus-Christ, et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans notre vie. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, nous lisons ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 10, et il est vrai que nous avons tendance à critiquer les Corinthiens en disant les chrétiens de Corinthe avaient beaucoup de problèmes. Et dans un sens, c'est vrai. Mais je me demande parfois si on n'est pas trop dur avec eux. Qu'on voit exposé dans la parole de Dieu, dans ses lettres aux Corinthiens, oui, tous les problèmes, les défauts, le péché au sein de cette église. Et puisque c'est exposé à la vue de tous que ça a été préservé pour nous jusqu'aujourd'hui, ben, je me demande si parfois, et je me mets dans cette catégorie, si on n'est pas trop dur avec les Corinthiens, et même avec d'autres qui passent par des moments difficiles, et d'autres qui, oui, tombent, qui s'écartent, qui tombent dans le péché, qui s'éloignent de Dieu. Et Paul, apparemment, avait cette peur pour les Corinthiens. Il y avait, nous le savons, cet orgueil chez les chrétiens de Corinthe, et ils se croyaient supérieurs déjà à d'autres églises. Certains dans l'église se croyaient supérieurs à d'autres chrétiens dans l'église. Il y avait des groupes qui étaient attachés à tel ou tel enseignement. Comme on a vu, certains étaient de Paul, d'autres de Pierre, d'autres de Céphas, ces hommes très éloquents, très impliqués dans l'Église du premier siècle, et d'autres, ben, eux, croyant être encore plus spirituels, ben, moi je suis de Jésus-Christ. Et Paul a dû reprendre les chrétiens de Corinthe sur cet aspect de leur orgueil. Et apparemment, ici au chapitre 10, il a encore ce souci pour les chrétiens de Corinthe que eux, malgré tous ces avertissements qu'il leur donne, qu'ils tombent de nouveau dans leur orgueil, qu'ils commencent à s'éloigner. Parce que si vous regardez au verset 6 de ce texte, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Et de nouveau, au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. » Et elles ont été écrites pour notre instruction. Et Paul parle de l'histoire d'Israël, l'Ancien Testament, ce qui déjà nous montre l'utilité de l'Ancien Testament. Il est bien dommage, certains disent, il faut se concentrer sur le Nouveau Testament, c'est ça, l'enseignement sur l'Église, c'est ce qui est pour nous aujourd'hui. L'Ancien Testament, c'est tout simplement historique et on s'y intéresse un peu, mais pas plus que cela. Ces personnes se trompent, malheureusement. Il y a tellement à apprendre. Et Paul veut montrer aux chrétiens de Corinthe qu'ils doivent faire attention. Parce que sinon, ils risquent de tomber. Et au verset 12, justement, après avoir donné cet avertissement, verset 6, verset 11, il dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Attention, il y a un grand risque, et le risque était réel pour les chrétiens de Corinthe. Ce risque est tout aussi réel aujourd'hui, 21e siècle, ici à Vernon, de nos jours, le risque de tomber. Malgré toute la connaissance que nous avons, toute l'instruction que nous avons reçue, tout ce que nous avons entendu, tous les exemples dont nous pouvons nous inspirer, il y a quand même ce danger de tomber, de s'écarter de Dieu, de ne pas apprendre de ces leçons que nous entendons. Et c'était le cas des Corinthiens, c'est le cas de nous aujourd'hui. Et il est tellement facile dans ce sens, critiquer les autres, mais aussi il est tellement facile d'écouter certaines histoires de la Bible, de lire des passages et que cela ne produise pas de changement en nous. Cela est tellement facile, et si ce changement n'est pas produit en nous, à ce moment-là, on est dans ce zone, on va dire, dangereux de tomber, comme Paul dit au verset 12. Alors, on revient au verset 1 de ce texte, parce qu'une chose, j'aimerais souligner, que Paul souligne également, c'est que il commence ce chapitre en disant « frère », et pas simplement « frère dans la chair ». Il y avait certains juifs dans l'église de Corinthe, mais s'il parle de « frère » ici, vous le savez, il s'adresse aux chrétiens. Et il est important que Paul revienne sur ce point, parce que, oui, il y avait pas mal de problèmes dans l'église de Corinthe, et certains auraient pu se poser la question « est-ce que les chrétiens de Corinthe étaient réellement des chrétiens ?» Tout le péché qu'il y avait dans l'Église, tout l'orgueil, ce péché d'inceste qui était permis dans l'Église, on se dit, mais c'est pas possible. Les chrétiens ne pourraient jamais faire cela. Malheureusement, si. Les chrétiens de Corinthe étaient de vrais chrétiens. Et Paul, il en est convaincu. Des chrétiens, oui, qui étaient tombés, qui avaient des choses à régler, mais quand même, des chrétiens. Et lorsque je lis ce verset 1, je suis encouragé, et j'espère que vous le serez également, parce que pour chacun d'entre nous, cela nous arrive de tomber, n'est-ce pas? Nous tombons dans le péché, nous nous écartons de Dieu, dans différents domaines bien sûr, mais nous le faisons tous. Par moments, on peut dire nous sommes assez forts spirituellement, tout va bien. D'autres moments, nous nous éloignons de Dieu, nous négligeons peut-être la lecture de la Bible, nous négligeons peut-être la prière. Nous négligeons peut-être la communion fraternelle avec des frères et sœurs. Et à ces moments-là, on peut devenir découragé. On peut tomber dans le doute. Et Satan voudrait que nous tombions dans le doute. Satan voudrait nous garder éloignés de Dieu et de tout ce qui pourrait nous aider à avancer. et dans ces moments, de pouvoir être encouragé avec cette simple vérité. Si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, rien ne pourra changer cela. Et oui, malheureusement, les chrétiens font les erreurs. Les chrétiens pêchent. Les chrétiens font du mal. Mais ils restent quand même les enfants de Dieu. Ce sont des chrétiens. Si quelqu'un a réellement accepté Jésus-Christ par la foi, c'est notre frère, c'est notre sœur en Christ. Et rien ne changera cela. Bien sûr, des relations très souvent doivent être rétablies. Un pardon demandé. Mais n'oublions jamais, tout comme Paul le montre ici aux Corinthiens, que nous sommes frères et sœurs en Christ, à condition, et je le souligne, d'avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Mais Paul continue dans ce verset, une fois qu'il a remis l'accent sur le salut de ces personnes à Corinthe, il dit « Je ne veux pas que vous ignoriez ». Nous avons déjà vu cette expression précédemment en Corinthiens, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Et apparemment, Paul, pour les Corinthiens et pour toutes les églises par lesquelles il est passé, il avait ce souci d'enseigner et de s'assurer que les chrétiens avaient cette connaissance à la fois, oui, de la parole de Dieu, de ce que Dieu voulait pour eux. Il va écrire aux chrétiens de Corinthe de cette façon, il va écrire aux Thessaloniciens, chapitre 4, ce grand chapitre sur le retour de Jésus-Christ, et il va dire « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont décédés ». Et puis aux Colossiens, il va prier pour l'intelligence spirituelle, pour que eux, ils ne soient pas dans le doute. Et puis aux Éphésiens aussi, à toutes les églises auxquelles il écrivait, Paul voulait s'assurer que les chrétiens aient la connaissance à la fois de la parole de Dieu, de Dieu lui-même. Et lorsque nous lisons cela, il faut se poser la question, suis-je dans l'ignorance? Suis-je dans l'ignorance? Et on va dire, notre réaction première va être, mais non. Qui aime reconnaître qu'il est ignorant? Non. Ce sont les gens simples, les gens pas instruits qui sont ignorants. Mais de se poser sérieusement la question, de se remettre en question devant Dieu, suis-je ignorant sur des choses concernant la Bible? Suis-je ignorant concernant Dieu, ses attributs, comment il agit, ce qu'il fait, comment il communique? Suis-je ignorant sur la parole de Dieu? Parce que Paul avait ce souci que les chrétiens de Corinthe ne soient pas dans l'ignorance. Et il y revient. Et de se poser la question, suis-je ignorant? Parce que si nous sommes ignorants dans des domaines, on va dire, humains, moi je suis assez ignorant en ce qui concerne les plantes. Je les vois, mais ne me demandez pas les noms, ne me demandez pas à quoi ça sert. Je suis assez ignorant, même en anglais, d'autant plus en français, je suis assez ignorant. Il y a des choses que j'ignore. Et pour vous, vous avez des domaines où vous savez un peu plus, mais d'autres domaines où vous êtes ignorant. Et le fait que je sois ignorant, concernant les plantes et autres, c'est pas bien bien grave, honnêtement. Par contre, être ignorant dans le domaine spirituel, ça c'est grave. Et Paul, il se rend compte de la nécessité pour les chrétiens de Corinthe d'avoir cette connaissance. Et il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, alors je vous écris. Et dans ce sens, Dieu nous dit aujourd'hui, à chacun d'entre nous, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, alors je vous ai donné ma parole. Il n'y a aucune raison pour laquelle un chrétien devrait être ignorant vis-à-vis de la parole de Dieu. Aucune. Bien sûr, nous sommes occupés. Nous avons notre vie, nos responsabilités professionnelles, familiales et d'autres. Mais un chrétien qui est ignorant en ce qui concerne la Bible est un chrétien qui court un grand risque, qui est dans un grand danger. Et il faut se poser la question, suis-je ignorant en ce qui concerne la parole? Suis-je dans l'ignorance comme apparemment les chrétiens de Corinthe l'étaient? Et comment est-ce que je peux ne plus être dans l'ignorance? Passer du temps dans la parole. comment s'instruire sur tel ou tel domaine. Par exemple, si je voulais devenir plus instruit concernant les plantes, ben, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ben, que je lise des livres, que je fasse des recherches, que je passe du temps à étudier ces plantes, ces fleurs, ces arbres. Et alors, je pourrais devenir instruit. Pourquoi serait-ce différent dans le domaine spirituel? Comment est-ce que je peux devenir plus instruit spirituellement? Ben, c'est en lisant la parole de Dieu. Et de se poser la question, ben, avec mon temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe du temps dans la parole de Dieu? Sérieusement? Ou est-ce que c'est relégué à quelques moments dans la semaine, dimanche, mardi, peut-être à d'autres moments? Ou est-ce que c'est simplement quand tout va mal, ou là je retourne à la parole? Ou est-ce que c'est quotidiennement, de manière constante, avec un rythme régulier, je suis dans la parole de Dieu pour ne pas être dans l'ignorance? Paul voyait l'importance pour les chrétiens de Corinthe, et c'est pareil pour nous. Et il va expliquer des choses que les chrétiens de Corinthe savaient. Verset 2. Déjà, il dit, verset 1, pardon, déjà, nos pères ont tous été sous la nuée. Très bien, ils ont vu cette colonne de nuée dont parle Exode. Ils ont tous passé au travers de la mer. Donc, tout le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, sans exception, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Verset 2, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, c'est-à-dire ils ont fait cette traversée. Ce baptême ici n'a rien à avoir avec le salut en Jésus-Christ, donc faisons la part des choses. Mais ils ont tous participé à cela. Verset 3, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, cette manne venant de Dieu, qui est tombée dans le désert. Verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc il dit, tous ont participé à cela. Il dit, chrétiens de Corinthe, vous le savez. Et tout le peuple d'Israël, à l'époque de Moïse, avait participé à ces choses. Il dit, c'est comme Paul dit, voici les faits historiques. Mais maintenant, au verset 5, Paul dit, ça c'était historique, tout ça s'est passé, l'importance pour les chrétiens de Corinthe à leur époque et aussi pour nous aujourd'hui, c'est qu'au verset 5, regardez, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et ces versets sont extrêmement significatifs pour nous, parce que Paul montre que les chrétiens ne devaient pas être ignorants de ce qui s'est passé dans l'histoire, dans le passé, mais surtout que cette connaissance qu'ils avaient devait avoir un impact dans leur vie à ce moment-là. Et Paul dit, ce n'était pas assez d'avoir participé à ces miracles de la part de Dieu. Déjà la sortie d'Égypte, un grand miracle de la part de Dieu. La traversée de la mer Rouge, un miracle. Dieu fend la mer Rouge en deux et le peuple, des centaines de milliers, certains estiment que peut-être environ 2 millions de personnes traversent à sec là la mer Rouge, la manne qui est tombée du ciel pendant 40 ans, cette eau à deux reprises qui est venue des rochers, tous ces miracles que Dieu a accomplis pour son peuple. Et Paul dit, même là, ce n'était pas assez. Ce n'est pas simplement parce que ces personnes ont assisté à ces miracles, ont vu quelque chose d'extraordinaire, qu'ils étaient agréables à Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils croyaient. Non. Paul dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. C'était juste un petit groupe, un petit reste de cette multitude, cette foule immense qui a pu aller jusqu'au bout, entrer dans la terre promise. Il s'agit de Josué, de Caleb et de tous ceux de toute la génération, 20 ans et moins. C'était quelques-uns, un tout petit groupe, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Et cela devrait nous faire réfléchir. Parce que ben, nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Nous avons les exemples de chrétiens à travers les siècles qui ont et agi pour Dieu de manière extraordinaire. Nous avons beaucoup reçu. Nous entendons la parole de Dieu. Nous bénéficions de toutes ces choses. Et de se poser la question, eh ben, est-ce que je suis agréable à Dieu? Parce que ce n'est pas parce que j'ai reçu un certain enseignement que je suis forcément agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai fait telle ou telle expérience que je suis forcément agréable à Dieu. Non, je suis agréable à Dieu parce que je continue de lui obéir aujourd'hui. Je continue de lui faire confiance aujourd'hui, et c'est ce que Paul va expliquer dans ce passage. Mais ce verset 5 doit vraiment nous réfléchir, parce que si le peuple d'Israël, qui a vu tant de miracles de la part de Dieu, si la plupart d'eux n'étaient pas fidèles, faisons attention nous-mêmes. Ce n'est pas parce que je suis dans l'Église, ce n'est pas parce que, comme j'ai dit, j'ai fait telle ou telle expérience, parce que j'ai reçu tel ou tel enseignement. Non, c'est un choix personnel que je dois faire tous les jours de continuellement être agréable à Dieu. Et c'est là, au verset 6, où Paul dit, bah, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est pour que les chrétiens de Corinthe, littéralement, 1000 ans plus tard, plus de 1000 ans plus tard, bénéficient de ses enseignements. Et il dit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et ici, Paul commence à parler de certaines choses, on va dire, négatives. Et la première réaction des chrétiens de Corinthe aurait pu être, mais non, on n'est pas du tout comme cela. Bien sûr, nous ne sommes pas comme les enfants d'Israël dans le désert. Il est évident que, on fait mieux qu'eux. On n'est pas du tout comme eux. Mais Paul appelle à réfléchir, de se remettre en question. Et il dit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ce qui fait qu'il y a un risque, il y a un danger que nous ayons ces mauvais désirs. Le problème, c'est que parfois, nous ne voulons pas admettre que nous les avons. Nous ne voulons pas admettre que parfois, oui, nous nous éloignons de Dieu. Nous avons des réflexions, des sentiments, des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et que oui, ces mauvais désirs, même si nous n'aboutissons pas à l'action, ces mauvais désirs sont quand même en nous. Et que faire à ce moment-là? Paul, à la fin de ce passage, va nous montrer. Mais nous lisons, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et notre première réaction peut être, mais bien sûr, nous ne sommes pas comme eux. Eux, ils ont mal agi. Eux, ils ont délaissé tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils n'ont pas fait attention. Mais bon, moi, je suis mieux. Moi, je fais la volonté de Dieu. Moi, je suis fidèle. Regardez-moi. Attention. Parce que il est bien possible que nous ayons de mauvais désirs en nous, qui nous portent vers les choses qui ne plaisent pas à Dieu, où nous ne recherchons pas le meilleur. Nous nous contentons des choses secondaires, nous n'allons pas vers l'essentiel. Et c'est à partir de verset 7 où Paul va commencer à mentionner spécifiquement ces mauvais désirs qui étaient parmi le peuple d'Israël. Et il va commencer très fort. Et lorsque nous voyons la progression de Paul ici, dans notre esprit, on peut dire il va du pire jusqu'au, on va dire, moins pire. Donc, il commence très fort en disant « Ne devenez point idolâtre. » Alors, qui ici s'identifierait comme idolâtre? Personne, je crois. On ne dirait pas « Oui, c'est vrai, je suis idolâtre. » Parce que dans notre esprit, idolâtre, c'est celui qui fabrique une image, celui qui se prosterne, qui adore, une statue ou autre chose. Et c'est vrai, ça c'est ça. Et il est vrai que le peuple d'Israël, à un moment donné, va fabriquer ce veau d'or, comme vous le savez, va adorer cela, va essayer de représenter Dieu par cette idole. Mais l'idolâtrie prend beaucoup de formes, comme vous le savez. Et l'idolâtrie n'a pas besoin d'être devant une image, devant une statue. Non, l'idolâtrie peut se passer dans notre esprit alors que nous faisons tout à l'extérieur convenablement. Mais dans notre pensée, dans nos réflexions, nous pouvons devenir idolâtres parce que nous réfléchissons, nous mettons dans notre esprit les choses avant Dieu. Et l'idolâtrie, tout simplement, c'est placer quelque chose ou quelqu'un avant Dieu. Et au lieu de dire tout de suite « Ah non, je ne suis pas du tout idolâtre », prenons le temps de réfléchir et se poser la question « Est-ce que je mets quelque chose d'autre devant Dieu ? Est-ce que quelque chose ou quelqu'un est plus important que Dieu ?» Et ça va se voir dans nos attitudes, dans nos actions, dans nos priorités. Montrez-moi sur quoi vous passez votre temps. Et je vous dirai quel genre de personne vous êtes. Montrez-moi sur quoi vous passez votre temps et je vous dirai vos priorités. Et parfois, nous ne voulons pas reconnaître que quelque chose est venu usurper la place de Dieu dans notre vie. Et nous lisons ce verset, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. » Et on se dit, mais bien sûr, on n'est pas idolâtres, passons à autre chose. Non, non. Arrêtons-nous quelques instants là-dessus et posons-nous sérieusement la question. Être honnête devant Dieu, est-ce que j'ai permis à quelque chose, petit à petit, d'usurper cette place qui revient seule à Dieu? Non pas que j'ai pas le droit de faire autre chose, de penser à autre chose, mais est-ce que mes premières réflexions sont sur Dieu, sur sa parole, sur comment je peux mieux le servir? Sur comment je peux mieux agir pour lui. Et si nous sommes honnêtes, je suis convaincu que chacun, à un moment, va tomber dans ce piège. Chacun, parce que nous sommes entourés de cette société qui nous pousse toujours plus loin de Dieu, nous sommes confrontés, oui, à cette tentation, nous sommes confrontés à ce piège, et parfois, sans le savoir, nous tombons. Et il faut se remettre en question devant Dieu. Et Paul dit, ne devenez point idolâtre. Ne commencez même pas sur ce chemin. Parce qu'il dit, le peuple d'Israël l'était, les chrétiens de Corinthe étaient en danger de le faire. Et il dit, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Des choses assez banales, manger, boire, s'amuser, mais ils avaient laissé Dieu de côté. Ils avaient remplacé Dieu par autre chose. Donc nous voyons, ne devenez point idolâtre, au lieu d'écarter ça tout de suite en disant non, c'est pas un problème pour moi, prenons le temps de réfléchir. Est-ce que nous mettons vraiment Dieu à la première place? Et puis, verset 8, il dit, ne nous livrons point à la débauche. Et là, on va dire, mais c'est même pas la peine d'en parler. Bien sûr, on ne fait pas cela. On est fidèle à son épouse. On est dans le mariage, on est fidèle. On n'est pas dans la débauche, quand même. C'est même pas la peine d'en parler. Les chrétiens de Corinthe, oui, ils permettaient ce péché. Eux, ils avaient un problème avec cela. Mais nous, attendez, on peut passer à autre chose. Mais encore une fois, arrêtons-nous là-dessus. La débauche... Jésus a clairement expliqué que le péché, c'est pas simplement dans les actes. Ça peut être dans la pensée. Le meurtre, c'est pas physiquement de prendre la vie de quelqu'un. Ça peut être être en colère avec son frère, de haïr son frère dans son cœur. Jésus dit c'est aussi grave. Et il dit sur ce point spécifique de la débauche, même la fornication, que même de penser. Il dit, on n'a pas besoin de passer à l'acte, mais les pensées même. Si on les nourrit, si on se laisse porter par cela, on tombe dans le péché. Et puis, Paul dit, ne nous livrons pas à la débauche. Et il prend exemple sur les enfants d'Israël de nouveau, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Dieu, il était radical dans ce sens, il jugeait tout de suite le péché de son peuple. Et Paul dit, attention, oui, les Corinthiens, ils avaient un problème avec ce péché, mais ne nous croyons pas au-dessus, ne nous croyons pas totalement à l'abri de ce péché, surtout dans notre société qui va de plus en plus loin dans les dérives, on va dire, sexuelles. Homosexualité, mariage pour tous, vous le savez. Notre société accepte et approuve pratiquement. Mais il faut se tenir à ce que dit la Bible et ne pas se laisser influencer par la société. Et nous sommes confrontés avec toutes sortes de tentations. Les publicités, à la télé, tout ce que nous voyons autour de nous. Et au lieu de dire, ah non, c'est pas du tout un problème, on passe à autre chose. Non, remettons-nous en question. Assurons-nous devant Dieu, parce que les chrétiens de Corinthe avaient un problème. Les enfants d'Israël avaient un problème, et nous ne sommes pas à l'abri. Et Paul dit, attention, ça, il ne faut pas tomber dedans. Et puis, au verset 9, Paul va dire, ne tentons point le Seigneur. Et là, on va se dire, mais encore une fois, peut-être les chrétiens de Corinthe, ils avaient un problème avec ça, ils étaient des chrétiens charnels, ils s'étaient éloignés de Dieu, bien sûr, ils allaient tenter le Seigneur. Mais nous, attendez, chrétiens du 21e siècle, avec tout l'enseignement que nous avons reçu, on n'a pas du tout de problème avec ça. Dieu, il est tellement grand, on a tellement de respect pour lui, bien sûr, on ne va pas le tenter. Ah bon? Ah bon? Ne tentons point le Seigneur. Alors, comment est-ce qu'on peut tenter le Seigneur? Nous tentons le Seigneur lorsque nous doutons de ses promesses. Dieu dit quelque chose et on doute de cela. Dieu va-t-il réellement pouvoir? Dieu va-t-il réellement diriger? Dieu va-t-il réellement ouvrir les portes pour me permettre de faire telle ou telle chose là où il me conduit? Et lorsque nous doutons des promesses de Dieu, c'est une façon de le tenter. De dire, eh ben, Dieu, est-ce que tu vas être fidèle? Et les chrétiens de Corinthe, apparemment, avaient un problème dans leur agissement, dans même leur croyance, dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de tenter le Seigneur. Et Paul dit, les conséquences pour les enfants d'Israël étaient extrêmement graves. Comme nous voyons, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents, ils tentèrent Dieu. Ils n'étaient pas satisfaits avec ce que Dieu pourvoyait pour eux. Ils disaient, il aurait fallu qu'on reste en Égypte. On était mieux en Égypte, en esclavage, alors qu'ici dans le désert, on va mourir. Et Paul dit, oui, Israël a tenté Dieu. Les chrétiens de Corinthe étaient en danger de le faire, et nous également. Nous pouvons être en danger de tenter Dieu, de ne pas croire que Dieu tiendra ses promesses, et à ce moment-là, il faut se remettre en question et dire, ah non, c'est pas comme si on dit, j'ai pas du tout de problème avec ça, on passe à autre chose, là, ce domaine, tout est réglé, aucun souci. Peut-être aujourd'hui, c'est le cas. Et si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine même, il se peut que nous soyons confrontés à ceci. Et que nous soyons obligés de reconnaître que nous tombons dans ce piège de tenter Dieu. Et à ce moment-là, ben, de s'en repentir, de revenir à Dieu. Et comme j'ai dit, dans ce que Paul explique ici, il y a une progression. Comme j'ai dit, c'est comme s'il va du pire, l'idolâtrie, la débauche, même de tenter le Seigneur. Bon, on voit la progression du pire au ce qui n'est pas trop, trop grave. Mais c'est là au verset 10. Et peut-être que vous l'avez relevé alors que j'ai lu ces versets. Verset 10. Ne murmurez point. et sous-entendu contre Dieu. Et c'est quelque chose qui est frappant en lisant le livre de l'Exode. Combien de fois, malgré tout ce que Dieu faisait pour son peuple, le peuple murmurait. Vous imaginez, du pain qui tombe du ciel. On n'a pas besoin d'aller à la boulangerie acheter son pain, on n'a pas besoin de le fabriquer. Non, on va, on ramasse devant chez soi, devant sa tente, cette manne. Et là, ils fabriquaient leur gâteau, leur pain et tout. C'était là. Ils n'avaient pas besoin d'aller à la récolte, mouler leur farine, obtenir tout. Non, non, non. Ils avaient cette manne tous les jours et pendant 40 ans, tous les jours, sans faute. Dieu a pourvu cette manne. Malgré cela, le peuple commence à en avoir marre. Ils disent, mais il n'y a que ça. On veut de la viande, on veut autre chose. On n'est pas content, on n'est pas satisfait avec ce que Dieu nous donne. Ils murmuraient contre Dieu. Et pourtant, Dieu leur a donné du pain du ciel. Dieu a deux reprises a pourvu de l'eau dans le désert à travers un rocher. Imaginez-vous le miracle. Le peuple est là. Première fois, Moïse, il frappe le rocher. Et là, une source jaillit. Et il y a de l'eau. Une autre fois, c'est une branche que Moïse va jeter dans un étang pour rendre l'eau potable, pour qu'ils boivent. Et Dieu a accompli tant de miracles dans le désert pour son peuple, sans parler de leurs vêtements et leurs sandales qui ne s'usaient point. Ce serait formidable, n'est-ce pas? 40 ans, vous gardez les mêmes habits, les mêmes chaussures, excellent. Ce serait pas mal si ça se passait aujourd'hui. Et malgré tout ce que Dieu faisait pour son peuple, ils arrivaient quand même à murmurer. Et comme j'ai dit, si nous ne faisons pas attention, on se dit, mais bande d'ingrats. Ces enfants d'Israël, on comprend pourquoi ils disent les enfants d'Israël se comportaient tout à fait en enfants. Et on se dit, pour un enfant qui soit, ils comprennent pas tout à fait l'étendue de tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on pourvoit pour lui et tout, bon, on comprend. Mais bon, les adultes qui savent reconnaître la valeur des choses, qui savent être reconnaissants, quand même, ils doivent l'être. Et de toutes les époques, de tous les peuples, le peuple juif aurait dû être le plus reconnaissant. Et pourtant, Paul dit, il murmurait contre Dieu. Et c'est ça la gravité de la chose. Il murmurait pas contre un homme. C'est vrai, il s'en prenait à Moïse. Et Moïse, à un moment donné, il dit, mais Dieu, c'est assez, je n'en peux plus, enlève-moi la vie. je peux plus. Et on compatit un peu avec lui. Mais il ne s'en prenait pas à un homme. Non, il s'en prenait à Dieu. Quelque chose de très grave. Et on est très prompt à critiquer Israël en disant, ils auraient dû agir différemment. Et nous. Aujourd'hui, nous arrive-t-il de murmurer contre Dieu? Et si nous sommes honnêtes, je crois que oui. Chacun d'entre nous, à un moment donné, on s'en est pris à Dieu. Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis telle ou telle chose d'arriver? Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas pourvu telle ou telle chose? Dieu, pourquoi est-ce que tu étais en retard pour... Avons-nous déjà eu des réflexions comme ça? Dieu, j'aurais tellement voulu que... Dieu, tu aurais dû... Oula! Dieu doit? Où est-ce qu'on lit ça dans la Bible? Non. Dieu fait sa volonté. Et Dieu agit avec bonté. Gloire à Dieu. Mais en réalité, Dieu ne nous doit rien. Par sa grâce et par sa miséricorde, il nous accorde des bénédictions. Et comme nous voyons dans le livre de Lamentations, sa bonté et ses grâces se renouvellent chaque jour. Amen. Mais Dieu fait tant pour nous. Et tout comme les enfants d'Israël, malgré tout ce que Dieu fait pour nous, il nous arrive de murmurer. Il nous arrive d'être mécontent. Il nous arrive de ne pas être satisfait avec ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Nous croyons devoir obtenir plus. Nous croyons que nous n'avons pas suffisamment. Nous croyons peut-être que Dieu, par moment, est chiche avec nous. Qu'il devrait nous donner certaines choses, qu'il a peut-être béni quelqu'un d'autre et ne nous a pas bénis. Et ces réflexions peuvent nous passer par l'esprit. Et si nous ne faisons pas attention, ben, nous tombons dans ce piège de nous en prendre à Dieu. Et si Paul mentionne cela en dernier, et si au début ça semble peut-être le moins pire, si je peux le dire comme ça, de ces quatre choses qu'il identifie, je suis convaincu que c'est la chose avec laquelle nous luttons le plus, et que c'est le pire de tous. Parce que c'est si facile de tomber dans ce péché, de s'en prendre à Dieu, de ne pas être content, de murmurer, de croire que Dieu ne nous donne pas ce qu'il nous faut, alors que le témoignage de la Bible, c'est que Dieu pourvoit pour nous. Matthieu chapitre 6, parmi bien d'autres versets, si nous cherchons premièrement Dieu, sa justice, son royaume, il va pourvoir pour nous. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Et Paul dit, il ne faut pas du tout murmurer. Et on peut dire, mais bien sûr, je ne murmure pas. Ah bon? Je crois, si on faisait vraiment un examen de notre vie, on aurait honte, on serait surpris avec notre comportement, avec nos paroles, avec notre attitude, avec nos réflexions. Et Paul garde ce point pour les derniers, parce qu'il veut que cela ait un impact. C'est tout aussi grave que de tomber dans l'idolâtrie. C'est tout aussi grave que la débauche. C'est tout aussi grave que toutes ces choses. Ben, Paul dit, non, il ne faut pas du tout murmurer. Et il ne veut pas que les chrétiens, il ne voulait pas que les chrétiens de Corinthe, et Dieu ne veut pas que les chrétiens aujourd'hui disent, ah, mais j'ai pas de problème avec ça, passons à autre chose. Non, 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 il faut s'examiner. Il faut être honnête devant le Seigneur. Et c'est là où nous arrivons au verset 11, où nous retrouvons ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Au lieu de regarder l'histoire du peuple juif en disant, ben, regardez tout le mal qu'ils ont fait, ils auraient dû mieux agir, ils auraient dû faire différemment. Moi, à leur place, j'aurais... Non, non, non. Nous, à leur place, on aurait fait tout à fait la même chose. Mais Paul dit, c'est pour servir d'exemple pour nous. Et parce que eux, ils ont mal agi, et parce que nous pouvons lire comment Dieu les a repris avec amour, mais avec fermeté, et nous voyons ce qu'il ne faut pas faire. Il nous faut prendre la décision aujourd'hui d'agir différemment. Nous avons la possibilité aujourd'hui de ne pas agir comme Israël dans le désert. Il n'y a pas de fatalisme. Ils ont agi comme cela, forcément nous allons agir de la même façon. Non, non, nous avons la possibilité aujourd'hui de faire le choix d'être agréable à Dieu. Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire le choix d'obéir à Dieu. Et Paul dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Et de se poser la question, est-ce que je permets à ces exemples de me toucher, de transformer ma vie, de faire que j'agis différemment, ou est-ce que ces histoires restent tout simplement des histoires? C'est dans le passé, c'est historique, ils ont agi comme cela, c'est bien dommage, et je vis ma vie aujourd'hui comme si de rien n'était. Le désir de l'apôtre Paul pour les Corinthiens, c'est qu'il y ait un réel changement. Et il dit, ces choses ont été écrites et se sont passées pour nous. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et si Paul, au premier siècle, a pu dire, ben, nous qui sommes à la fin des siècles, combien plus aujourd'hui, 2000 ans plus tard, pouvons-nous dire, surtout lorsque nous voyons la société autour de nous, nous sommes à la fin des siècles. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises récemment, je suis convaincu que le retour du Christ n'est pas très loin. Mais nous avons encore le temps d'obéir à Dieu, d'apprendre de ces histoires du peuple d'Israël et des autres histoires dans la Bible, ces exemples qui sont là pour nous. Et c'est là au verset 12, Paul dit ces mots qui, pour nous, nous les connaissons. Nous les avons entendus, nous avons certainement appris ce verset. Mais Paul dit, ainsi donc, sur la base de ces 11 premiers versets, toute cette connaissance, toute cette transformation qui doit être là, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Et comme j'ai dit, au lieu de dire, les enfants d'Israël, ils ont agi de telle ou telle façon, mais c'est normal, ils n'avaient pas toutes ces choses, ils n'étaient pas spirituels, les chrétiens de Corinthe, ils agissaient de cette façon, eux, ils étaient charnels, mais moi, aujourd'hui, 21e siècle, j'ai toute cette connaissance, j'ai fait telle ou telle expérience, j'ai toutes ces choses, il n'est pas question que moi je tombe. Là, on est en grand danger. Devrait avoir les panneaux tout autour des feux rouges. Attention, attention. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. De nouveau, Paul revient sur cette question de l'orgueil. Et il dit, l'orgueil va faire tomber. Il faut faire attention. Et c'est là où intervient le verset 13. Parce que Paul termine ce passage, cette partie du chapitre, en réfutant un argument que certains pourraient avoir, parce qu'il vient d'expliquer toutes ces choses, un peu côté historique, dans un sens côté pratique aussi, qu'il doit avoir des transformations, et c'est comme si il sait déjà que les chrétiens de Corinthe vont mettre des objections. Ils vont dire, oui, mais c'est pas facile, il y a toutes ces tentations, la société dans laquelle nous vivons, et c'est vrai, à Corinthe, c'était la débauche totale, c'était le monde, ils étaient dans un contexte pas facile, et c'est comme si Paul anticipe cela, et c'est pour cela qu'il écrit le verset 13, inspiré par Dieu, bien sûr, et il dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et face à tout ce côté historique, face à ce que nous vivons dans le monde, parfois, nous pouvons dire, c'est trop. Je fais face à telle ou telle situation et je n'arrive pas. C'est pas possible que je puisse tenir. C'est pas possible que j'obéisse là. Peut-être j'aimerais délaisser peut-être un péché, j'aimerais éviter telle ou telle tentation. Mais c'est pas possible, c'est plus fort que moi. Et à ce moment-là, nous oublions ce verset. Et Paul savait que les chrétiens de Corinthe avaient besoin de ce verset. Et Dieu sait que nous avons besoin de ce verset aujourd'hui. Parce que l'influence du monde est énorme. Il ne faut pas la minimiser. L'influence du monde est autour de nous tous les jours. L'influence de notre propre cœur mauvais est avec nous 24 heures sur 24. Et les tentations sont là. Et souvent, elles sont énormes. Souvent, elles sont très fortes. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans ce piège de croire que nous n'avons d'autre choix que de céder. Nous n'avons d'autre choix que d'accomplir les désirs de notre cœur, de faire ce vers quoi notre cœur nous porte. Et à ce moment-là, nous oublions ce verset, parce que oui, la tentation peut être forte, dans n'importe quel domaine. De mal parler, de mal agir, même de penser mal, comme nous voyons ces mauvais désirs au verset 6. Et Paul rappelle ici que Dieu est plus puissant que n'importe quelle tentation qui pourrait venir dans notre vie. Et il est important que ce verset se trouve dans ce contexte, Parce que Paul veut montrer le contraste entre la connaissance théorique de savoir une chose. Les Corinthiens savaient tout un ensemble de choses sur Israël. Et pourtant, ils n'évitaient pas ce que Israël faisait. Et nous pouvons avoir une connaissance sur Dieu, sur sa parole. Et nous pouvons savoir théoriquement que Dieu est plus grand que tout. Que Dieu est plus grand que nos tentations. Comme Paul va le dire ailleurs, Dieu est même plus grand que notre propre cœur. Et pourtant, il est possible que cette connaissance n'ait pas d'impact dans notre vie de tous les jours. Et que nous arrivions quand même à tomber dans ce piège de dire, c'est plus fort que moi. C'est pas possible. Je n'en peux plus. Je ne peux pas surmonter telle ou telle tentation. Je ne peux pas me sortir de telle ou telle situation. Et à ce moment-là, nous manifestons à la fois un manque de foi en Dieu, mais un manque d'impact de cette connaissance que nous avons. Et de voir que Dieu, lui qui est fidèle, il est le Dieu fidèle. Et que malgré notre péché, malgré notre éloignement de lui, parce que nous le ferons à un moment ou à un autre, sans exception, chacun d'entre nous, malgré cela, Dieu prépare pour nous un moyen de nous en sortir. Dieu est prêt à pardonner et à restaurer. Dieu n'est pas là en tout prêt à nous juger, nous taper sur la tête avec un bâton en disant « Mais t'aurais dû mieux faire, j'avais préparé toutes ces choses, mais tu n'as pas voulu, tu n'as pas fait. » Non, Dieu, comme un bon Père céleste, veut restaurer. Il sait que parfois nous nous éloignons de lui. Il sait que parfois nous cédons à la tentation, alors qu'il aurait voulu qu'on fasse un autre choix. Et Dieu est fidèle de nous restaurer, de nous pardonner. Et il veut que nous venions à lui. Et même lorsque nous tombons, il est prêt à faire tout cela. Et Dieu est assez grand pour nous aider à surmonter n'importe quelle tentation, de faire face à n'importe quelle difficulté dans notre vie, mais Dieu est aussi assez grand pour pouvoir nous relever de n'importe quoi, n'importe quel péché, n'importe quel éloignement. Dieu est capable, et Dieu veut, c'est pas simplement sa capacité, mais c'est sa volonté de restaurer. Il veut voir ses enfants avancer pour lui. Et il s'agit pour nous de nous remettre en question, lorsque nous voyons ce passage, de dire, est-ce que je suis de ceux qui se croient debout, qui croient être debout, qui croient qu'il n'y a pas vraiment de problème, que tout va bien, alors qu'il y a réellement un problème? Ou est-ce que je suis de ceux qui se soumettent à Dieu, qui s'appuient sur sa grâce, qui entretiennent leur relation avec Dieu, qui apprennent de ces leçons, de ces histoires dans la Bible, et qui mettent en pratique ces leçons, qui obéissent? Est-ce que je suis dans un camp ou dans l'autre? Est-ce que je suis dans l'orgueil de croire qu'il n'y a rien à changer, ou est-ce que je suis plutôt dans l'humilité, en disant « j'ai encore des progrès à faire, encore des choses que je peux apprendre, encore je peux être agréable à Dieu par sa grâce. » Nous avons un choix à faire, soit de rester comme nous sommes, sans aucun changement, ou bien de prendre la décision aujourd'hui. Je veux être de plus en plus agréable à Dieu. Je ne veux pas ressembler aux Corinthiens dans ce sens de qu'il n'y ait aucun impact dans ma vie. Non, non. Je veux qu'il y ait des changements pour la gloire de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Paul voulait pour les Corinthiens. Et par la grâce de Dieu, il y a eu des changements. Nous les verrons dans la suite de cet épître. Il y a eu des changements, gloire à Dieu. Et dans notre vie, il peut avoir des changements, à condition que nous fassions ce choix. Oui, je me soumets à toi. Je veux rester près de toi. Je veux te faire confiance. Je sais que tu es le grand Dieu. Alors, ce choix devant nous, quel choix allons-nous faire? Nous savons quel choix Dieu voudrait que nous fassions. Mais quand nous sortirons de ce bâtiment, demain, dans le travail, même déjà cet après-midi, d'ici la fin de la journée, nous serons confrontés à des situations où nous allons devoir de nouveau faire un choix. Vais-je continuer comme je continue sans aucun changement, ou est-ce que je vais laisser Dieu continuer de me changer par sa grâce? Que chacun puisse prendre la décision qui glorifie Dieu et que Dieu reçoive toute la gloire pour cela. Prions. Oui, Seigneur, nous reconnaissons notre besoin de ton aide. Nous ne sommes pas suffisants pour ce changement, pour faire toutes ces choses que tu demandes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et humblement, nous demandons à ce que tu puisses nous aider, que tu nous donnes déjà un cœur sensible pour déjà vouloir ce changement, et que tu puisses l'accomplir en nous. Que ce changement soit évident pour tous, parce que c'est toi qui le fais, et que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu accompliras dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen.